Voilà, bonjour chers frères et sœurs. Je vais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 17 et au verset 14. Nous allons poursuivre sur ce sujet très important de l'autorité spirituelle. On a vu plusieurs conditions préalables. On a commencé à voir il y a quelque temps la confession des péchés, la repentance. Ensuite, on a parlé de la repentance, très important sujet. Et puis, la dernière fois, on a parlé du pardon, la nécessité de pardonner. Il y a une autre condition préalable à l'exercice de l'autorité spirituelle qui est la foi. On va le voir dans quelques exemples. Car Dieu voit ce matin si nous avons la foi ou si nous ne l'avons pas. Dieu sait tout. Mais les puissances spirituelles, comme le diable ou les démons, ils voient aussi si quelqu'un a la foi ou ne l'a pas. C'est-à-dire que les puissances spirituelles sont sensibles à notre foi, ou si nous avons la foi, ou si nous ne l'avons pas. Quand je parle de la foi, il n'y a rien de magique. On va voir que c'est un principe spirituel, et que la foi va nous permettre d'avoir une autorité sur le monde spirituel, dans la foi au nom de Jésus. On va lire un premier texte donc, qui va nous montrer que la foi nous permet d'avoir autorité sur les démons. Matthieu chapitre 17, versets 14 à 21. Puis nous verrons que la foi aussi nous permet d'avoir autorité sur les montagnes qui peuvent se dresser devant nous. Et parfois, il nous faut parler aux montagnes. Et puis, nous verrons aussi que la foi nous permet d'avoir autorité sur la maladie et les dégâts que peuvent causer ces maladies. Alors, lisons ce texte dans Matthieu chapitre 17, premier exemple. Et au verset 14, « Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon, qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. » Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. » Alors Jésus, quand il a parlé aux disciples, lorsqu'il a enseigné, il a clairement identifié nos ennemis qui sont le diable, que sont le diable et les démons. Certains, parfois, sont mal à l'aise lorsqu'on évoque le sujet des démons parce qu'ils ont une vision faussée de ces choses. Il n'y a aucune inquiétude quand on est enfant de Dieu concernant les esprits méchants et les démons. Je vais vous montrer pourquoi. Néanmoins, il y a dans le monde d'aujourd'hui, et même chez certains chrétiens, une influence qui n'est pas de la parole de Dieu, mais qui est une influence de ce qui est communiqué au travers des médias. Je pense aux films, je pense aux reportages qui peuvent être faits sur les puissances occultes, et ça va susciter une certaine crainte, même au sein du peuple de Dieu. Or, nous, enfants de Dieu, nous n'avons rien à craindre de la puissance des ténèbres. Même si les médias vont les présenter d'un jour effrayant, d'un jour, on va dire, avec l'occultisme qui fait des dégâts, qui fait des ravages, etc. Nous, quand on a Jésus dans notre cœur, nous ne devons pas avoir peur des puissances des ténèbres. Il y a aussi une autre raison pour laquelle certains croyants sont mal à l'aise, parce qu'ils pensent que les démons sont éloignés de nous. Ils pensent qu'il n'y a pas de démons en France, peut-être qu'ils sont dans d'autres pays. Peut-être qu'ils agissent ailleurs, mais que nous sommes épargnés en quelque sorte, comme si même dans notre pays, les démons passaient à côté ou dans une autre direction, et que finalement, il n'y en a pas à proximité. C'est aussi une erreur, car nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, les démons sont partout et ils agissent dans le monde. Aussi, certains font cette remarque en tant que chrétiens, nous ne sommes pas confrontés aux démons parce que les démons ont peur de nous. En réalité, les démons n'ont pas peur de s'approcher. De même que le diable s'est approché de Jésus, il s'est approché pour le tenter. Il y a des démons qui peuvent s'approcher, même de croyants. S'ils ont peur, c'est quand nous les chassons dans le nom de Jésus. Là, ils tremblent, là, ils fuient. Mais les démons essaieront toujours de s'approcher d'une manière ou d'une autre. Et la Bible dit même que Satan a laissé Jésus un temps, mais il est dit jusqu'à une occasion plus favorable. Donc, les démons cherchent aussi des occasions favorables pour attaquer, pour séduire, pour détruire. Alors, Jésus a donné quelques directives importantes que nous voyons dans la parole concernant ces esprits mauvais. D'abord, bien sûr, Jésus a considéré qu'ils existaient, et nous croyons qu'ils existent, parce qu'il y a encore des gens qui se demandent si les démons existent ou pas, même des savants, même des théologiens très avancés qui se posent encore la question. Comme Jésus a expliqué, les démons existent et il les a chassés, nous croyons de même qu'ils existent toujours. Ils n'ont pas disparu, leur nombre n'a pas non plus diminué, mais ils sont toujours dans la même pensée de faire du mal aux gens. À l'époque de Jésus, les démons, qu'est-ce qu'ils faisaient? Soit ils tourmentaient les gens au niveau spirituel, soit ils leur communiquaient des maladies, soit dans le pire des cas, ils entraient en eux pour les posséder. Il y a toutes sortes d'actions des démons. En fait, les démons cherchent des portes ouvertes ou en quelque sorte des accès dans les cœurs pour s'infiltrer, pour influencer, et nous devons les chasser. En aucun cas, nous ne devons les craindre, frères et sœurs, et en aucun cas, nous devons surestimer leur puissance parce que Jésus est toujours plus puissant que le plus puissant des démons, même que Satan lui-même. Jésus nous a donné d'ailleurs cet ordre. Il nous a dit que nous devions les chasser. Il ne nous a pas demandé si on était d'accord ou pas. Il a dit « guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Donc Jésus nous a donné cette consigne et à nous de la mettre en pratique. En fait, quand il y avait des démons qui se manifestaient, Jésus n'était ni surpris, ni inquiet, car il savait qu'il allait confronter une opposition spirituelle en faisant son ministère. Alors si nous revenons à notre récit, un homme dont il est dit ici qu'il vient à Jésus pour son fils, il ne vient pas pour lui-même, mais c'est son fils qui est sous l'autorité ou sous la puissance d'un démon, il a un démon qui le fait souffrir cruellement. Alors concernant ce fils, il est dit dans ce texte que le fils, il souffre cruellement. C'est donc un des buts des démons que de faire souffrir cruellement les gens et de les tenir dans des sortes de liens et d'asservissement. Cet enfant est profondément atteint. Alors quand on parle des démons, souvent la première pensée, c'est la possession. Or, la possession n'est qu'une des multiples actions des démons. En réalité, l'action des démons est très diverse dans la parole de Dieu. Les démons peuvent communiquer des maladies, je l'avais dit tout à l'heure, et des fois il y a des symptômes, comme ici vous voyez certains symptômes. Plusieurs commentateurs estiment qu'il s'agit de symptômes de maladies comme l'épilepsie. Et il est dit dans d'autres textes qu'une femme était courbée en deux, mais c'est parce que Satan la tenait liée de cette manière-là. Donc, pas toutes les maladies, bien sûr, mais certaines maladies sont communiquées par des puissances spirituelles. Aussi, ils peuvent communiquer des tourments. Alors, ils peuvent s'opposer à un chrétien qui veut faire la volonté de Dieu. Ils peuvent détourner les gens de la lumière. Ils peuvent attaquer. Ils peuvent séduire. Ils peuvent communiquer des pensées impures. Et puis, ils rôdent dans toutes sortes de lieux impurs, essayant d'attirer des gens et de les lier, de les posséder. Bien sûr, ils sont dans tous ces lieux où il y a des péchés qui sont abondamment commis. On peut penser à tout ce qui se passe dans les discothèques, dans des choses impures, dans la pornographie, dans toutes ces choses-là qui ne sont pas la gloire de Dieu. Il y a toutes sortes de puissances, de mauvais esprits qui vont avec cela pour essayer de manipuler, de toucher les hommes. Alors, cet enfant, nous voyons que son cas est plutôt grave. Il est assez désespéré car le démon le fait à la fois jeter dans l'eau et dans le feu, c'est-à-dire qu'il y a une emprise complète du démon sur sa personne qui le fait pousser au suicide. On voit que cet enfant n'est plus maître de lui-même, c'est que s'il passe à côté de l'eau, tout d'un coup il a envie de se jeter dans l'eau. S'il passe à proximité d'un feu, il a envie de se jeter dans le feu. Non pas que c'est lui-même qui en a le désir, mais c'est, il est tellement habité par une puissance de ténèbres que la puissance le pousse à le faire, un acte qui vise à le détruire. Et là, on voit tout à fait l'œuvre du diable, qui est un mercenaire qui ne vient que pour égorger, voler et détruire. Jésus nous a avertis de ces choses. Alors les disciples, le pire de tout, c'est que les disciples donc n'ont pas pu chasser ce mauvais esprit. Donc le Père est désemparé et il vient à Jésus en disant « Voilà, j'ai présenté mon enfant à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir, ils n'ont pas pu délivrer mon fils. » Mais Jésus ne va pas laisser cet homme dans le désarroi. Il va s'adresser directement au démon, on l'a lu tout à l'heure. « Amenez-moi l'enfant ici », c'est au verset 18. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui. Remarquez que Jésus ne s'adresse pas à l'enfant, mais il s'adresse à l'esprit impur qui est entré dans cet enfant et qui le tient lié. Et c'est ainsi que Jésus va prendre autorité sur le mauvais esprit en s'adressant directement à lui et en le chassant. En réalité, ça nous rappelle cet ordre de cette parole de Paul dans Éphésiens 6:12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc il y a quand même un combat spirituel important dont nous devons être informés. Et dans ce cas, bien sûr, l'enfant n'est pas coupable, il est une victime, si vous voulez, de Satan. Et c'est pourquoi Jésus va parler sévèrement aux démons. Alors les démons, immédiatement, lorsqu'ils entendent la voix de Jésus, qui parle avec autorité, ils ressentent en Jésus qu'il y a une autorité supérieure à eux-mêmes. C'est ce qui les fait trembler, c'est ce qui les fait craindre pour eux. Et le but de Jésus n'est pas tellement de parler avec les démons ou de communiquer avec eux, mais s'il parle avec eux, c'est dans le but de les chasser. Et parfois, il faut en passer par là. Donc, le but est toujours de les expulser. D'ailleurs, Jésus ne prie pas, par exemple, « Bénis cet homme, Seigneur, etc. » parce que ce n'est pas la prière qui est nécessaire dans ce cas-là, c'est de parler au démon pour chasser le démon. Des fois, il est nécessaire de prier, par exemple, pour une personne qui est malade et on prie pour elle. Mais des fois, il est nécessaire de s'adresser au mauvais esprit pour chasser le mauvais esprit. C'est ce que Jésus fait ici dans ce cas. Donc, il n'y a pas de dialogue. Et nous ne cherchons pas, si nous parlons à un démon, à en savoir plus sur leur organisation, sur leur vie. Nous ne cherchons pas ces choses-là, mais simplement de l'identifier, comme Jésus l'a fait, pour pouvoir l'expulser dans le nom de Jésus. Voilà, ça a été rapide. En fait, il faut savoir que nous, enfants de Dieu, nous pouvons commander les démons. Nous en avons le pouvoir, l'autorité, si nous sommes dans la foi. C'est ce que Jésus va leur expliquer. L'enfant va être totalement guéri, et sa maladie, on s'en rend compte, n'était pas d'origine physique, mais elle était d'origine spirituelle. Il avait tous les symptômes, selon certains, de l'épilepsie, mais en réalité, ce n'était pas de l'épilepsie, c'était des manifestations démoniaques communiquées par un démon qui avait toute l'apparence d'une certaine maladie. Alors, bien sûr, je le redis, toutes les maladies ne sont pas d'origine spirituelle et c'est pourquoi il est nécessaire de discerner. D'ailleurs, Jésus n'a pas toujours chassé des démons. Quelquefois, il est dit qu'il a imposé les mains ou qu'il a guéri les malades, priant pour la personne et là, priant pour que la personne soit guérie. Et dans bien des cas, ce n'était pas le fait d'un démon, c'était simplement physique. Alors, les disciples se posent la bonne question, et c'est au verset 19. Alors, les disciples, effectivement, ils ont vu Jésus qui a guéri le démoniaque. Eux-mêmes n'ont pas pu. Bien, verset 19, ils demandent à Jésus, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'était la bonne question. Il fallait savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Jésus va donner deux réponses qui, pour nous, sont importantes. Et c'est comme ça que Jésus va former, finalement, les disciples pour l'œuvre de Dieu. Alors, la première chose qu'il dit aux disciples, c'est à cause de votre incrédulité. Voilà la première raison pour laquelle vous n'avez pas pu le chasser. La deuxième, on va voir tout à l'heure, c'est parce qu'il y a certains démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Concernant l'incrédulité, premièrement, on connaît tous les méfaits de l'incrédulité dans la vie chrétienne. Jésus l'a même dit aux gens de Nazareth, à cause de votre incrédulité, il a dit, il n'a pas pu faire le Seigneur beaucoup de miracles dans cette ville à ce moment-là. Donc l'incrédulité va être un frein à l'action de Dieu. C'est pourquoi Jésus parle de cela. Les démons ne seront pas soumis si dans notre cœur il y a de l'incrédulité. Ça a été le cas des disciples et ce sera pareil pour nous. Autrement dit, sans la foi, on va dire même sans une foi authentique, une foi qui vient d'en haut, eh bien nous n'avons pas d'autorité spirituelle sur les démons. On peut parler aux démons, on peut tenter de le chasser, on peut même avoir entre guillemets des paroles appropriées en disant « je te chasse dans le nom de Jésus », mais s'il n'y a pas la foi qui est nécessaire pour avoir l'autorité, les paroles ne suffisent pas. Il faut qu'il y ait la foi dans notre cœur. Le démon ressent s'il y a de l'incrédulité ou s'il y a de la foi. On a cet exemple des sept fils de Séva qui chassaient bien les démons, mais ils n'avaient pas l'autorité. Il leur manquait quelque chose et ils n'avaient pas la foi. C'est pourquoi ils n'y arrivaient pas non plus. Donc la foi, et Jésus va même dire un peu plus loin, même une petite foi comme un grain de sénevé, eh bien, est suffisante pour obliger, en quelque sorte, le démon à se soumettre et à sortir. En fait, le démon ne nous craint pas. Il ne craint pas notre voix, mais il craint l'autorité de Jésus. Si nous avons Jésus en nous, nous avons l'autorité. Si nous n'avons pas Jésus, si nous n'avons pas la foi, nous n'avons pas l'autorité. Ce n'est pas une question de cri ou de gesticulation, c'est une question d'autorité. Si on a compris ce qu'est l'autorité, on peut avoir autorité sur les puissances spirituelles. Mais si on n'a pas compris ce qu'est l'autorité, on ne peut pas avancer. Parce qu'il y a, si vous voulez, dans la vie spirituelle, il y a des principes spirituels. C'est un petit peu comme dans notre monde. Il y a des lois. Par exemple, si vous montez au troisième étage d'un immeuble et que vous lâchez une pierre, la pierre va tomber automatiquement par terre. Elle ne va pas rester sur place, elle ne va pas monter vers le ciel. C'est une loi qui fait que, c'est la loi de la gravité, c'est comme ça, c'est une loi naturelle. C'est des principes. Et dans le monde spirituel, il y a les mêmes principes qui ne sont pas naturels, mais qui sont maintenant spirituels. Et un des grands principes, c'est que la foi, dans le nom de Jésus, nous permet d'avoir autorité sur les démons. Ça, c'est un principe. Et le démon se soumettra du moment qu'il y a la foi dans le nom de Jésus. La deuxième raison pour laquelle ils n'ont pas pu chasser, dit Jésus, c'est parce qu'il y a certains, cette sorte de démon, dit-il, ne sort que par le jeûne et la prière. Et il est certain que quand nous entrons dans un combat spirituel, nous entrons dans un combat intense et qu'il nous faut avoir une bonne préparation spirituelle parce que c'est très éprouvant. Et on se rend compte que les disciples n'étaient pas bien préparés. Or, Jésus nous recommande d'être préparés, de jeûner, de passer du temps à ses pieds. Il dit aux disciples, par exemple, « Attendez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Ils savaient qu'ils avaient besoin d'un revêtement particulier de puissance parce qu'ils allaient aller sur un grand terrain, ils allaient évangéliser, ils allaient témoigner, il y allait y avoir de l'opposition. Il fallait qu'ils aient la puissance du Saint-Esprit. Donc le jeûne et la prière va permettre de développer, quand on est rempli du Saint-Esprit, bien sûr, parce que la première chose, j'en avais parlé au tout début, c'est qu'il nous faut être rempli du Saint-Esprit. Et associé au jeûne et à la prière, ça va développer une autorité spirituelle face au monde invisible qui va nous permettre d'avoir des succès, des victoires. C'est un excellent moyen de se préparer au combat. Et on voit que les disciples n'avaient pas pris le temps de se préparer, alors finalement ils étaient faibles spirituellement et ils n'ont pas pu chasser le démon. Le démon a ressenti cela et il est resté. D'ailleurs, je remarque que Jésus ne dit pas à ses disciples « Bon, vous êtes des bons à rien, je ne pourrai jamais rien faire avec vous. » Mais il va leur expliquer tout simplement comment il faut faire, qu'est-ce qui a manqué, comment il faut faire et comment on fera la prochaine fois. C'est comme ça que Jésus a formé les disciples. Jésus ne leur a pas dit « Vous n'y arriverez jamais, vous n'êtes que des incapables. » Il leur a dit « Voilà, il y a l'incrédulité, il y a le jeûne et la prière, il y a deux problèmes à traiter, il va falloir que vous y mettiez. » Donc, nous connaîtrons sans doute des échecs, mais en tout cas, on peut toujours poser des questions au Seigneur. « Seigneur, pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu chasser ce démon ?» Et Jésus nous donne les réponses appropriées. Alors, on doit demander au Seigneur qu'il nous éclaire et qu'il nous aide parce que nous voulons être efficaces dans le service de Dieu. On ne veut pas rester juste où on en est. On veut progresser et avancer, mais nous avons un grand formateur, c'est Jésus. Et les disciples, quand ils avaient un problème, ils se tournaient vers Jésus. Et nous, si nous avons une difficulté ce matin, alors nous pouvons nous tourner vers le Seigneur qui saura nous aider et qui saura nous écouter. Vous voyez que même les disciples qui étaient quand même auprès du Seigneur ont rencontré aussi des difficultés. Donc cela peut nous arriver aussi, et il ne faut pas se décourager, mais persévérer. Un autre exemple, c'est, je disais, l'autorité sur les montagnes. Alors, c'est dans Marc, chapitre 11, verset 20. Il y avait une petite allusion ici, aussi dans ce passage qu'on a lu, mais je voulais lire aussi Marc, chapitre 11, et le verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. » L'autorité sur les montagnes. Jésus, dans ce contexte, a maudit un arbre, un figuier, la veille, parce qu'il n'y avait pas de fruit en lui. Figuier qui, le lendemain matin, se retrouve complètement sec jusqu'à la racine, et Pierre le fait remarquer à Jésus. Simplement, le Seigneur avait dit quelques mots. Il avait dit à l'arbre que jamais personne ne mange de ton fruit. Ce n'était pas une très longue phrase, mais c'était dit avec autorité, l'autorité du Seigneur. Et ça a immédiatement eu un impact sur cet arbre qui s'est séché. En réalité, on voit que, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas la longueur des prières, ce n'est pas la puissance de la voix, mais c'est l'autorité qui fait bouger les choses. Je pense à la prière d'Élie, par exemple, face aux 400 prophètes de Baal et les 450 prophètes d'Astarté. C'était donc Élie, un prophète de Dieu, et il avait mis au défi les faux prophètes de faire tomber le feu du ciel. Alors ils avaient fait chacun un autel avec un bœuf dessus, et puis ils priaient. Alors les prophètes d'Astarté, toute la matinée, ils ont prié, et ils se faisaient des incantations, ils hurlaient, ils se faisaient des blessures pour essayer d'attirer la puissance de Dieu. Et puis on voit que Élie fait une simple prière qui ne tient pas plus de deux versets, et au bout de cette prière, le feu du ciel descend. Vous voyez l'autorité, et c'était un prophète qui avait une autorité spirituelle, l'autorité que nous avons dans le nom de Jésus. Alors, je reviens à ce texte. Donc, au verset 22, par rapport à ce figuier, les disciples sont interpellés. Alors Jésus va leur enseigner sur la foi. Et il leur dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Jésus va placer la foi en préalable à l'exercice de l'autorité spirituelle. Puisqu'après, il va dire, si quelqu'un croit et qu'il s'adresse à cette montagne. Mais il faut d'abord qu'il y ait la foi. Ayez foi en Dieu. Il précise ensuite l'objet de notre foi. Ayez foi en qui ? En Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui va faire toute la différence. Nous ne mettons pas notre foi dans un homme, nous ne mettons pas notre foi dans une organisation, nous mettons notre foi en Dieu. Dieu vivant et vrai. Donc c'est bien précisé, c'est en lui que nous mettons notre confiance. Et la traduction littérale, qui a été d'ailleurs reprise dans la nouvelle Bible Second, est « Ayez la foi de Dieu », qui est une petite différence quand même, parce que « Ayez la foi de Dieu », ça signifie que cette foi que nous devons avoir n'est pas d'origine humaine, mais elle est d'origine divine. Nous pouvons avoir des croyances diverses, comme il en existe des multitudes dans ce monde. Des hommes sont capables de croire presque en tout et n'importe quoi. Mais la foi, c'est particulier. La foi, c'est pas humain, c'est divin. La foi est pure, la foi est spirituelle, la foi est puissante, la foi, elle vient d'en haut, elle vient dans notre cœur, elle nous est donnée. Donc, il nous dit, ayez la foi de Dieu. Littéralement, c'est ce que Jésus a dit. Et l'homme n'est pas capable lui-même d'avoir la foi. Il a besoin de l'aide de Dieu pour croire en Dieu. Donc, alors, quand vous avez cette foi, dit Jésus, vous allez vous adresser à cette montagne. Je vous le dis en vérité, c'est le verset 23. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Alors, s'il croit, s'il ne doute pas dans son cœur, s'il croit, cela se fera. Alors, la montagne, c'est quoi ? La montagne, c'est bien sûr une image. Il ne s'agit pas de s'adresser à une montagne, mais c'est une image quand même qui nous montre que c'est immense, C'est quelque chose qui est là devant nous, qui nous empêche d'avancer. C'est quelque chose qui nous domine, qui nous écrase. Peut-être on n'a même pas l'impression qu'on pourrait la faire bouger d'un millimètre. Et puis, la montagne, elle est constamment devant nos yeux pour nous montrer nos impossibilités, nos incapacités. Et nous en avons peut-être une devant nos yeux ce matin. C'est une montagne, c'est un obstacle infranchissable, du moins qui nous semble infranchissable, qui nous sape le moral, qui nous décourage, qui nous abat. Bref, nous connaissons toutes sortes de montagnes dans notre existence. Ce sont des impossibilités, ce sont des choses où l'adversaire nous dit « tu ne verras, ça ne changera jamais, tu n'y arriveras pas » ou « il ne se convertira jamais, tes enfants, ton mari ne se convertira jamais », etc. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Quand il y a un obstacle infranchissable, Jésus nous donne la réponse. Parfois, nous nous laissons décourager, frères et sœurs. Parfois, nous regardons la montagne et nous disons « nous n'y arriverons jamais » et nous nous convainquons nous-mêmes que ça ne sera pas possible. Et quelquefois, même chrétiens, nous commençons à dire le contraire de la parole de Dieu. Parce que Jésus ne nous a pas dit de dire « c'est impossible, on n'y arrivera pas, on est trop petit, allez, on va se plaindre, on va gémir, etc. » Jésus nous dit « il y a une montagne qui est devant nous, alors vous allez lui parler. Vous allez parler à cette montagne. » Voilà ce que Jésus nous recommande de faire, de parler avec autorité. Pourquoi on va lui parler ? Eh bien, c'est parce que la montagne va se soumettre à l'autorité dans le nom de Jésus. Une montagne, si vous voulez, ne nous craint pas, on est insignifiant à ses yeux, mais elle est obligée de partir, un petit peu comme on parlait des démons, c'est le même principe finalement. Elle est obligée de partir au nom de Jésus proclamé avec foi. Une montagne, c'est imposant, c'est statique, ça ne veut pas bouger, mais c'est un principe. C'est ce que Jacques appelle la prière de la foi. Dans Jacques chapitre 5, verset 15, il dit « la prière de la foi sauvera le malade ». Et donc, la prière de la foi est agissante. Alors, les montagnes sont là pourquoi ? Bien finalement, elles sont là pour que nous puissions mettre en pratique la foi. Si nous n'avions jamais de montagne devant nous, on ne pourrait jamais mettre notre foi en action et exercer l'autorité. Or, Jésus dit, à chaque fois que vous avez une montagne qui se dresse devant vous, vous dites à cette montagne, jette-toi de là, dans la mer, et elle vous obéira du moment que vous avez dans votre cœur la foi, vous avez l'autorité. Je pensais tout à l'heure à ce qu'on disait par rapport aux démons. Une montagne, ça ne veut pas partir, mais un démon non plus. Un démon, quand il est dans une personne, il ne veut pas partir. Si on n'a pas l'autorité pour le chasser, il ne partira pas. Il nous faut la foi et l'autorité dans le nom de Jésus. C'est pareil pour la montagne. Et Jésus développe au verset 24 un principe spirituel. Voyez. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Autrement dit, Jésus renverse les choses. Et il nous dit d'abord, vous allez croire, et ensuite, vous verrez s'accomplir. Or, nous, souvent, nous avons besoin de voir pour croire quelque chose. Mais le principe de la foi est celui-ci. D'abord, vous allez croire. Croyez que vous l'avez déjà reçu. Et vous verrez ensuite la chose s'accomplir au milieu de vous. Donc, ça, c'est le principe biblique. Mais sans la foi, nous n'aurons pas l'autorité spirituelle. La montagne ne bougera pas. Par contre, même quelqu'un qui a une petite voix, je dirais, mais qui a sa foi en Jésus, elle a l'autorité spirituelle pour parler à la montagne et lui dire de partir et de se jeter dans la mer. La montagne est obligée d'obéir. Elle n'obéit pas à notre voix, frères et sœurs. Elle obéit à l'autorité de Jésus. C'est comme ça que ça se passe dans le monde spirituel. Et enfin, je termine Actes chapitre 3, versets 1 à 8, pour l'autorité sur la maladie. Et ici, nous retrouvons Pierre et Jean. Pierre et Jean qui montent ensemble au temple à l'heure de la prière. Actes chapitre 3, verset 1. Et il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement et s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Lève-toi et marche. Et prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes, et d'un saut, il fut debout. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. On peut lire aussi le verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme ?» Et puis le verset 16, « C'est par la foi en son nom, c'est-à-dire au nom de Jésus, que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Amen. » Voilà un dernier texte donc, qui nous parle maintenant de l'autorité, toujours, mais de la foi qui permet l'autorité sur la maladie. Pierre et Jean vont au temple à 15h de l'après-midi. Ils sont là devant une situation attristante. Il y a un boiteux qui est là. Pierre et Jean sont remplis du Saint-Esprit. Ils veulent faire la volonté de Dieu. Et ils auraient pu ignorer cet homme et puis aller à la réunion sans faire attention. Mais le Seigneur leur a montré qu'il allait se passer quelque chose. Et ils ont commencé à voir ce boiteux. Et d'ailleurs, Pierre a vu là une opportunité pour parler de Jésus. Pierre, vous savez, c'était un homme comme nous. Il avait ses limites, il avait ses faiblesses. Mais néanmoins, Dieu l'a utilisé pour de grandes choses. Pierre n'était pas un médecin. Il voit un homme malade. Il ne pourrait même pas diagnostiquer son problème, finalement. Il voit que c'est un boiteux, mais il n'est pas médecin. Il ne peut pas le guérir avec des médicaments. Pierre n'est pas non plus un guérisseur. Il n'utilise pas de magnétisme, de fluide, et il n'utilise pas les puissances de ténèbres. Pierre n'était pas non plus un homme riche, parce qu'il dit « je n'ai ni argent, ni or ». Il ne pouvait pas aider cet homme financièrement. Qu'est-ce que pouvait faire Pierre ? Au point de vue humain, il n'avait rien, mais spirituellement, il avait quelque chose de plus dans son cœur, il avait Jésus. Et c'est pourquoi il va dire « au nom de Jésus, lève-toi ». Et marche. Et c'est ainsi qu'il va prendre autorité sur la maladie. Alors il a ressenti dans son cœur que Dieu allait guérir cet homme et il va prier une prière très courte, on l'a lu ensemble, une phrase, mais dite avec autorité dans le nom de Jésus qui va agir et qui va permettre que cet homme soit entièrement guéri. Les gens commençaient à regarder Pierre comme un être un peu spécial. Ils se sont approchés de lui et ils ont dit « mais qui est celui-ci ? Est-ce que ce serait... un envoyé des dieux, un guérisseur avec un pouvoir surnaturel. » Et voyez que Pierre, à ce moment-là, il aurait pu basculer dans l'orgueil et se vanter de quelque chose. « Voyez ce que j'ai accompli, j'ai guéri cet homme devant vous tous, c'est que Dieu agit par moi. » Et à aucun moment, Pierre ne s'attribue quelque gloire. Immédiatement, il renvoie les gens à Jésus. Il dit « c'est par le nom de Jésus, c'est en son nom que cet homme... » C'est cité deux fois dans Actes chapitre 3. Parce qu'il va expliquer la raison de la guérison. Évidemment, les gens sont interpellés. Comment c'est possible qu'un boiteux soit guéri comme ça instantanément ? Humainement, ce n'est pas possible. Mais Pierre va leur expliquer pourquoi. C'est au verset 16. Il va expliquer que c'est par la foi. C'est la foi en son nom. Remarquez, verset 16, deux fois la foi est citée. La foi en son nom, que son nom a raffermi celui que vous voyez connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. La foi qui précède l'autorité, il n'y a pas d'autre raison pour laquelle cet homme a été guéri instantanément, parce que Pierre avait la foi et il avait l'autorité. Et c'est ainsi que le miracle s'est produit. Et Pierre n'en tire aucune gloire, mais il rend toute la gloire au Seigneur. Maintenant, si nous croyons que Pierre, c'est un cas particulier, que les apôtres, les guérisons, c'était du temps des apôtres, alors nous dirons aujourd'hui, c'est plus valable pour nous. Il y en a qui pensent ça. Mais si nous croyons que Pierre était un homme comme nous et que les paroles, les promesses qui ont été valables pour Pierre sont aussi valables pour nous, alors nous avons aussi la même autorité dans le nom de Jésus. Si nous avons la foi, si nous croyons que Dieu peut tout faire, nous pouvons nous attendre au miracle et prier pour la guérison. Amen. On va conclure. Avec la foi, on se rend compte que c'est une porte qui s'ouvre vers le tout possible divin et que bien souvent nous sommes avec nos limitations, nous, encore aujourd'hui, on voit les choses d'en bas, à vue humaine, comme tout à l'heure, on est au pied de cette montagne et on se dit, mais qui viendra me délivrer, qui viendra me secourir ? Or, Jésus nous a dit ce qu'il fallait faire. Vous parlez à la montagne, donc vous allez croire. d'abord et ensuite agir avec autorité. La Bible nous rappelle que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est une position spirituelle, mais d'autorité. Nous avons donc une position spirituelle. Évidemment, il faut le croire. Moi, si je ne le crois pas, je ne vais pas avoir d'autorité dans ces choses. Mais si je le crois, oui, les choses fonctionnent. Le principe se met en place. Jésus a même dit qu'une fois qu'il serait parti, tout ne serait pas fini, mais qu'il allait continuer à agir. C'est dans Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, la foi qui vient en premier, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et même Jésus rajoute, et il en fera même de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié par le Fils. On voit bien que la foi, c'est indispensable pour exercer l'autorité et pour faire les œuvres que Jésus veut que nous fassions. Est-ce que nous avons cette foi ce matin ? On ne parle pas d'une foi superficielle, une foi, on va dire, une croyance quelconque, à la manière des démons, qui ont une certaine croyance, c'est-à-dire ils croient que Dieu existe, ils savent que Dieu existe, mais la foi qui vient de Dieu. Ayez la foi de Dieu. On va prier un instant le Seigneur. On a besoin de la recevoir d'en haut, afin que lorsqu'on est confronté à une situation, on ne soit pas paniqué, désemparé, ne sachant pas vers qui se tourner, perdu, comme sans Dieu, mais nous savons, parce qu'il y a des principes spirituels, que si nous croyons dans le nom de Jésus, c'est l'ennemi qui va reculer. Et nous, on va avancer. Jésus dit même qu'on va marcher sur les serpents. On va marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Pour Jésus, il n'y a rien d'impossible. Merci Seigneur de bénir les cœurs ce matin. De permettre qu'au milieu de nous, il y ait vraiment cette foi authentique, cette foi qui vient d'en haut, pour nous permettre de déplacer ces montagnes. De vivre dans la dimension, Seigneur, que tu attends de nous. Nous ne craignons pas les puissances de ténèbres. Nous voulons les chasser dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est avec foi que nous prions maintenant pour les délivrances, pour les victoires, pour la puissance du Saint-Esprit au milieu de nous. Seigneur, tu peux tout faire, mais nous rejetons toute forme d'incrédulité, de doute qui vient s'enraciner en nous, et nous voulons cette foi qui vient d'en haut. Nous avons faim et soif de toi, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire au milieu de nous. Seigneur, saisis-toi de nous ce matin, afin que nous soyons des chrétiens bouillants, des chrétiens remplis de ton esprit, zélés pour ton œuvre, manifestant les fruits de l'esprit et marchant dans la foi. Alléluia.